bien voilà, sur Radio Craponne, eh bien, on retrouve les avocats de la Haute-Loire, je vous le rappelle, désormais tous les troisièmes mercredis du mois. Et nous avons avec nous Maître Joël Diez, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous avons Edwina Custin.
Bonjour.
Bonjour. Alors, le thème hein, de cette semaine, enfin de ce mois, on va dire, qu'on avait sélectionné, c'était les infractions. Donc, au code de la route. Alors, on va peut-être faire une petite introduction, Maître Diez, avec peut-être dire les différents degrés de faute qu'on peut commettre au niveau du code de la route, entre les contraventions, les délits. C'est pas la même chose.
Tout à fait. Alors, les infractions routières sont des infractions qui sont très dures hein, pour le conducteur, puisqu'il s'agit d'infractions formelles. On a malheureusement une petite marge de manœuvre de contestation, on y reviendra dessus, c'est pas pour autant qu'il faut jamais contester et jamais prendre un avocat,
oui.
Mais quoi qu'il en soit, ce sont des infractions qui répondent à un régime assez strict et notamment à des retraits de points de permis de conduire qui sont quasi automatiques. Il y a effectivement une graduation dans toutes ces infractions. Certaines infractions n'impliquent pas du tout de retrait de points.
Oui.
Ce sont les contraventions les moins graves. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être par exemple la circulation dans une voie de bus qui va impliquer une amende forfaitaire de 135 €. Ça peut être le défaut de stationnement payant. Nous le connaissons tous malheureusement.
Oui.
Une amende forfaitaire de 17 € ou plus. Le stationnement abusif. Des choses comme ça. Il y aura perte de points. Je vais vous donner des exemples. Les pertes de points peuvent aller de 1 point jusqu'à 8 points. 8 points, il est établi effectivement qu'aujourd'hui le permis de conduire est crédité de 12 points. Il est possible de perdre jusqu'à 6 points maximum en une infraction et jusqu'à 8 points en plusieurs infractions cumulées en une fois. Donc c'est effectivement entre 1 point et 8 points que les choses peuvent se jouer. Alors la perte d'un point c'est quoi? C'est notamment le chevauchement d'une ligne continue. Le petit excès de vitesse en ville.
Oui.
La perte de 2 points, je vous donne des rapides exemples, c'est l'excès de vitesse supérieur à 20 km/h. La perte de 3 points, c'est une infraction à laquelle malheureusement beaucoup de conducteurs sont sujets, c'est le téléphone au volant, ça peut aller très vite. C'est une amende de 135 €. L'absence du port de ceinture de sécurité, 3 points également. Ensuite, 4 points, c'est le non-respect d'un feu rouge. Et 6 points, c'est les contraventions les plus graves. C'est les contraventions de la 4e et 5e classe qui, elles, alors attention, impliquent automatiquement un passage devant un tribunal.
Ah, voilà, obligatoire.
Obligatoirement. Soit un tribunal de police, soit un tribunal de proximité. Et on verra ensuite les délits. Également infraction très grave qui, elle, relève du tribunal correctionnel. Alors, les infractions 4e et 5e classe qui relèvent du tribunal, ça peut être quoi? Ça peut être l'alcool au volant, bien entendu. Et puis, l'excès de grande vitesse, plus de 50 km/h. Donc là, on est dans des infractions qui relèvent automatiquement d'un passage devant un juge. Également pour les délits. Les délits, ce sont les infractions les plus graves. Pour vous donner un exemple parlant, je pense que tous les auditeurs le comprendront, c'est notamment les blessures involontaires ou l'homicide involontaire qui évidemment implique un passage devant un tribunal correctionnel. Ça va être le délit de fuite et ça va être aussi ce que les conducteurs peuvent très bien connaître, l'alcool au volant, la conduite en état d'ivresse et la conduite aussi aujourd'hui sous l'effet de stupéfiants. Voilà un petit peu dresser le tableau des catégories d'infractions.
Voilà, infraction donc à ce fameux code de la route hein, qu'il faut respecter puisque c'est le code de la route. Il y a des auditeurs qui ont déposé leurs questions hein, cette semaine, soit par téléphone, soit sur le mail. On pourrait peut-être en poser une tout de suite parce que je vois qu'on en parlait justement. Alors il y avait un auditeur qui nous demandait, Philippe de Craponne, qui nous demandait est-ce qu'une amende apparaît sur le casier judiciaire? Alors... peut-être qu'on va peut-être faire parler
Maître Gustin.
Gustin, voilà.
Oui, alors il faut savoir que l'amende est la sanction qui est prise. Donc l'amende peut figurer sur le casier judiciaire si elle résulte de la sanction d'une infraction qualifiée de délit.
Ah voilà, faut que ça soit grave quand même.
Il faut qu'il y ait un passage devant.
Voilà, le simple stationnement est.
Le simple stationnement est quand même soumis à une amende.
Oui, oui, voilà,
mais ça ne figure pas sur le casier judiciaire.
Alors qu'est-ce qui peut figurer alors sur le casier?
L'alcool au volant, le délit de grande vitesse, la conduite sous l'effet des stupéfiants, ce genre d'infraction, ce genre de condamnation figure sur le casier judiciaire.
Figure sur le casier judiciaire. Ok. Eh bien, suite de notre émission avec les avocats de la Haute-Loire, dans les studios de Radio Craponne, maître Joël Diaz, maître Edwina Gustin. Alors, une question auditeur tout de suite. On sait bien que le français conteste souvent, hein, vous le savez. Comment contester un excès de vitesse? Et alors, pourquoi à ce moment-là, quel est l'avantage de prendre un avocat? Qu'est-ce que peut faire l'avocat?
Tout à l'heure, je vous disais qu'il était intéressant de revenir sur les éventuelles contestations.
Oui.
Le passage devant un tribunal peut être automatique en cas d'infraction importante, mais il peut être aussi provoqué par une contestation d'un contrevenant, d'un automobiliste. C'est pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut jamais rien contester et qu'il ne faut jamais prendre d'avocat, vous en doutez.
Oui, oui.
C'est le contraire qui m'habite. Il est intéressant de contester certaines infractions. Il est intéressant de consulter également un spécialiste. Donc un avocat, un juriste qui a l'habitude un petit peu de manier la pratique des infractions routières, pour plusieurs raisons. Première grande catégorie de raisons, il peut y avoir dans les procès-verbaux de poursuite, dans les procès-verbaux d'audition, dans les procès-verbaux de constatation des gendarmes ou des services de police, des nullités de procédure. Il peut y avoir un exemple, un radar qui ne soit pas homologué, il peut y avoir plusieurs causes de nullité qui amèneront l'avocat de l'automobiliste à faire tomber les poursuites et à obtenir la nullité de toute la procédure et donc l'absence de condamnation. Alors on va dire que ça c'est le cas idéal et que malheureusement tous les dossiers qui arrivent sur nos bureaux ne sont pas empreints de nullité, mais même. Au cas où l'avocat considérait qu'il n'y a... C'est le premier réflexe en général qu'a l'avocat que vous irez consulter en matière d'infraction routière. Si obtenir déjà la copie des pièces pénales et vérifier qu'il n'y ait pas de nullité de procédure. Mais si toutefois il n'y en avait pas, le rôle de l'avocat est néanmoins intéressant parce que il va pouvoir expliquer aux magistrats devant lesquels vous allez passer quel est le contexte de l'infraction, dans quelles conditions elle a été commise, pourquoi elle a été commise et éventuellement quelle est la personnalité du conducteur. Voilà. Donc il n'est jamais inintéressant d'expliquer le contexte et d'expliquer la personnalité du conducteur au magistrat pour essayer évidemment d'obtenir une peine la moins lourde possible. Je vais vous donner un exemple. J'ai défendu un individu qui était VRP il y a quelques jours et qui... avait commis un excès de grande vitesse, donc supérieur à 50 km/h, donc comme je vous le disais tout à l'heure, passage automatique devant le tribunal. Eh bien, l'infraction était reconnue, amplement constituée, effectivement, pas de nullité de procédure, mais il est intéressant à ce moment-là d'expliquer le contexte, de dire que ce monsieur était VRP, qu'il avait 30 ans de permis, jamais une infraction lui avait été reprochée. Alors, on va peut-être pas dire que ce jour-là, il avait un rendez-vous important parce que c'est un petit peu bateau comme raison, mais en tout cas, j'ai pu plaider que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de parcourir énormément les routes de France et de Navarre, que son métier était difficile et qu'il fallait être un petit peu plus indulgent envers lui qu'envers le conducteur lambda qui faisait 4000 km par an. Voilà. Donc
un petit peu des circonstances atténuantes, on
pourrait
dire.
Tout à fait. Les circonstances atténuantes sont valables devant n'importe quel tribunal, pas forcément pour les criminels. Hein. Voilà.
Alors oui, parce que concrètement, souvent, on a le radar à flasher et on reçoit une lettre, hein, c'est ça. Mais Laurent disait tout à l'heure hors antenne que de toute façon, il faut payer. Comment ça se passe, par exemple, maître Gustin? Concrètement, on reçoit la lettre dans la boîte à lettres, on vous dit de payer avant 45 jours, je ne sais plus, tel, sinon ça augmente. Si on veut contester, qu'est-ce qu'on fait?
Si on veut contester, le procès-verbal qu'on reçoit par le courrier est de toute façon très clair et très précis. Mmh. Les instructions figurent sur ce document.
Oui.
Mais effectivement, pour contester cette infraction, il convient de payer l'amende forfaitaire en envoyant son chèque avec la contestation. Les rares cas, je crois, qui sont dispensés de cette formalité de paiement, c'est, je crois, lorsque vous avez vendu votre véhicule et que vous n'êtes pas propriétaire de ce véhicule et que vous pouvez en fournir la preuve.
D'accord. Voilà, mais on paye au départ et
puis
ensuite...
Payer, donc, et ensuite on est convoqué devant une juridiction.
Et on peut prendre un avocat.
Et c'est là qu'on appelle son avocat, voire même avant de contester, on peut prendre un avocat qui pourra formaliser la contestation effectivement.
Eh bien, on va continuer avec nos avocats tout de suite. Voilà, on voyage, on était du côté du Chambon-sur-Lignon. Alors, avocat du Dupuy-en-Velay, vous êtes une quarantaine, c'est ça hein?
Oui, tout à fait, une quarantaine, entre le Puy et Brioude.
Entre le Puy et Brioude. Alors, avec nous, maître Joël Diez, maître Edwina Agustin. Alors, on a parlé... il y a des nouveaux systèmes. Alors, on va parler du téléphone au volant. Hein. Alors, c'est interdit hein, déjà. Ça, le téléphone au volant, on n'a pas le droit de téléphoner, d'avoir le téléphone dans les mains.
Voilà, alors c'est sûr que c'est une question qui revient souvent. Oui. L'usage du téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est totalement interdit. Donc attention, pas de téléphone en conduisant. Est également interdit le port à l'oreille par le conducteur de tout dispositif susceptible d'émettre du son. C'est-à-dire que même les oreillettes sont interdites.
Voilà, ça peut troubler la conscience. C'est vrai, ça peut troubler le discernement. Moi, je pense. Ouais, d'accord.
Alors, reste le problème du kit main libre. Alors, le kit main libre, la réponse n'est pas si claire. La jurisprudence de principe n'aurait pas encore tranché, sauf mauvaise information de notre part. A priori... Le kit main libre pourrait être autorisé dans la mesure où, évidemment, toutes les commandes se passeraient depuis le volant, puisqu'il est totalement interdit de toucher son téléphone. Donc, un kit main libre avec une utilisation bouton au volant, éventuellement, et encore une
fois,
ça peut passer. Voilà. Consulter éventuellement un avocat sur ce point-là.
C'est le Bluetooth.
Mais c'est vraiment le seul cas.
Je l'ai depuis peu. Moi, je ne connaissais pas. Alors, Bluetooth, en fait, oui. Normalement,
à condition de ne pas toucher l'appareil.
Voilà. Si on peut prendre un appel, éventuellement, si la commande est au volant.
Voilà.
C'est vrai que c'est. Mais par contre, on ne va pas toucher l'écran, faire des petites manipulations.
Voilà, Donc, les anciennes oreillettes qu'on connaît tous, c'est pas toléré.
On ne peut pas écouter de la musique non plus.
C'est pas toléré et c'est passible donc d'une amende. Amende forfaitaire de 135 € et d'une perte de 3 points.
Voilà. Alors j'ai une autre question pour vous. Hein? Si le conducteur n'est pas le propriétaire de la voiture, qui paye l'amende? Alors, maître Gustin.
Théoriquement, c'est l'auteur de l'infraction qui est redevable de l'amende forfaitaire qui la sanctionne. Si le contrôle est effectué sur place par les forces de l'ordre, il verbalise la personne qui est au volant et donc la personne qui commet l'infraction. La question se pose si c'est un contrôle automatique par les radars automatiques qui sont sur le bord de nos routes et qui nous envoient automatiquement le procès-verbal. Il est envoyé directement au propriétaire du véhicule qui est le titulaire du certificat d'immatriculation. Si vous êtes propriétaire du véhicule mais que vous n'avez pas commis l'infraction, vous pouvez dénoncer entre guillemets l'auteur de l'infraction en notant sur le procès-verbal son nom, son numéro de permis de conduire et en lui demandant de payer l'amende. Mais si vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction, en tant que propriétaire du véhicule, vous êtes quand même responsable des sanctions financières qui sont dues suite à une infraction.
Ouais. On peut le plaider, ça, si notre ami ou ex-ami maintenant ne veut rien comprendre, est-ce que éventuellement, parce que pour des grosses infractions, on sait jamais, ou quelqu'un qui a peu de points sur son permis et qui dit mais c'est mon collègue qui a emprunté la voiture, est-ce qu'il peut y avoir un procès? Comment que ça va?
On peut contester de la même manière que ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut contester être l'auteur de l'infraction. Il faudra par contre arriver devant la juridiction compétente en expliquant comment on peut prouver qu'on n'était pas au volant.
Oui.
Et si on ne veut pas donner le nom de la personne qui est au volant au moment de l'infraction ou si cette personne ne reconnaît pas les faits, on est quand même redevable de l'amende, de la sanction financière. C'est le retrait de points qui n'aura pas lieu à ce moment-là.
D'accord. Bon, c'est bien clair. Eh ben, on va se retrouver avec une autre question dans quelques instants, toujours avec les avocats de la Haute-Loire. Donc, avec le thème du jour, les infractions au code de la route. On se retrouve dans quelques instants.